À tous, que Dieu soit avec vous. Et priez pour moi parce que j'ai besoin de sa grâce. J'ai eu sur mon cœur de vous donner quelque chose d'un petit peu particulier. Et je pourrais déraper, je pourrais m'en mêler, je pourrais me tromper et je voudrais rester fidèle à ce que j'ai écrit. Nous allons lire un petit verset, très simple, très court, dans Luc chapitre 1, le verset 37. Vous pouvez observer que le verset 37 n'est pas long, mais il dit quelque chose de bien important. Luc 1, 37. Qui est-ce qui parle? C'est un ange. C'est un ange qui est en train de dire « Car rien n'est impossible à Dieu. » Je sais que tous les chrétiens du monde cautionnent cette phrase-là. Je le sais. Tout le monde est persuadé de cette vérité, tous les croyants de la terre en sont persuadés, et même des non-croyants. Rien n'est impossible à Dieu. Ailleurs, il est écrit que tout est possible à Dieu. Mais ici, c'est mis à l'envers. L'ange dit, rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est le genre d'affirmation qu'il est extrêmement facile de retenir avec son cerveau. Pas compliqué. Si je vous disais fermez les yeux et répétez, je crois que c'est facile. Rien n'est impossible à Dieu. Ça veut dire que Dieu est capable de faire quoi que ce soit. Il est le Dieu tout-puissant. Et vous savez, je pourrais le crier, le dire et le hurler. Je ne serai que très en dessous de la vérité. Dieu est tout-puissant. Et il n'y a rien qui ne lui soit impossible, ou tout lui est possible. Donc on peut facilement, avec son propre cerveau, le retenir. C'est plus difficile que ça descende du cerveau dans le cœur. Et je pense qu'il y a beaucoup de croyants sur la terre qui l'ont dans le cerveau, et moi je vais essayer de vous le faire descendre dans le cœur. Parce que ce n'est pas la même chose. Lorsque nous avons cette phrase dans le cerveau, nous sommes capables de la commenter, de la répéter, de nous en souvenir, de la redire, et peut-être même d'y ajouter certains commentaires. Par contre, lorsque la phrase est dans notre cœur, alors elle inspire de la confiance, je suppose que vous le comprenez comme cela, elle inspire de la confiance, elle inspire de l'adoration, elle inspire de la sécurité. Celui qui croit avec son cœur que rien n'est impossible à Dieu n'a pas la même prière que celui qui le croit uniquement avec son cerveau. Il n'est pas possible d'admettre cette vérité avec son cœur et en même temps de vivre une piété désastreuse. Ça n'est pas possible. Ça veut dire que si je vis une piété superficielle ou désastreuse, c'est que la vérité n'est pas descendue dans mon cœur, où elle y vient, elle y repart. Je sais cela avec mon intelligence, je le sais avec mon cerveau, mais je ne le crois pas avec mon cœur. Les hommes se déclarent incrédules et ils rusent contre Dieu pour contrer Dieu. Souvent, ils cherchent à contrer Dieu parce qu'ils refusent cette vérité qu'à Dieu, tout est possible. Et ils refusent cette vérité parce qu'ils savent ou ils le perçoivent que s'ils acceptaient cette vérité, elle modifierait beaucoup de choses dans leur vie. Car une personne qui accepte qu'à Dieu tout est possible a beaucoup de choses qui changent dans sa vie. Alors les gens se déclarent athées, ils se déclarent incrédules, ils ne cherchent pas à savoir exactement d'où vient leur athéisme ou leur confession d'incrédulité, mais la réalité de la chose, c'est qu'ils refusent et ils contre Dieu parce qu'ils ne veulent pas admettre qu'à Dieu tout est possible. Et je voudrais bien que ce matin, tous les croyants qui sont dans ce lieu et tous ceux qui entendront peut-être un jour cet enregistrement puissent être bouleversés en sachant qu'à Dieu, tout est possible. Pensez à n'importe quel problème de votre vie, pensez à n'importe quelle solution à laquelle vous courez, pensez à n'importe quel dédale inextricable dans lequel vous avez été ou vous êtes, et puis concluez en disant « mais à Dieu, rien n'est impossible », vous allez voir que si c'est le cœur qui parle et non pas le cerveau, ça fait quelque chose et ça bouleverse quelque chose. Un jour, il y a un incrédule qui disait à un croyant, « Montrez-moi Dieu, montrez-le-moi. » Alors le croyant lui a dit, « Ce n'est pas compliqué. Venez, regardez, fixez le soleil, regardez. » L'autre lui a dit, « Mais vous voulez me rendre aveugle? Je ne peux pas fixer le soleil. » Alors le croyant lui a dit, « Comment pouvez-vous prétendre voir Dieu si vous n'êtes même pas capable de regarder une des œuvres de Dieu ?» C'est vrai, ça. Et ce matin, je voudrais que nous puissions voir Dieu avec notre cœur, comprendre, vous faire découvrir un Dieu que vous ne soupçonnez peut-être pas, vous faire découvrir un Dieu qui est capable de faire quoi que ce soit. Rien n'est impossible à Dieu, rien. Celui qui ouvre la Bible pour la première fois trouve à partir du premier verset, du premier chapitre, de la première page, des choses extraordinaires. Et ça dure, et ça dure, et ça dure, jusqu'à la fin de la Bible. Et si c'est un incrédule qui lit la Bible, de deux choses l'une, ou bien il tombe sur sa face et il proclame que Dieu est tout-puissant et il a envie de connaître ce Dieu tout-puissant, ou alors il referme le livre très rapidement. Si c'est un croyant, il est étonné, il est bouleversé, il découvre que page après page, tout ce qui est écrit dans la Bible est extraordinaire, miraculeux, prodigieux. Ça n'arrête jamais, de Genèse 1 à Apocalypse 21, ça n'arrête jamais. Dieu est extraordinaire. Non seulement ça peut bouleverser la vie d'un croyant, mais c'est un verset qui peut faire d'un croyant un véritable adorateur. Car vous savez que Dieu cherche des adorateurs. Dieu veut, non pas des gens qui disent « je crois en Dieu », mais Dieu veut des gens qui l'adorent, qui sont des adorateurs. Chacun comprend bien entendu qu'être adorateur, ça n'est pas conjuguer le verbe « adorer ». On peut le conjuguer, j'adore, tu adores, nous adorons, mais ça ne fait pas de nous des adorateurs. Ce qui fait de nous un adorateur, c'est ce sentiment d'admiration, de dévotion, d'obéissance, de remerciement, d'écoute de ce que Dieu est, de ce que Dieu fait. Le verset que je viens de vous lire est un verset, c'est une vérité universelle et éternelle. Elle est vraie pour nous, aujourd'hui, 11 décembre. Elle est vraie pour les gens de demain. Elle était vraie pour les gens de l'époque de Jésus. Elle est universelle parce qu'elle s'adresse à tous les hommes, à tous les animaux, à toutes les plantes qui sont sur la terre. Dieu règne et Dieu dirige les choses. Je vais vous le montrer. Et non seulement tous les hommes, tous les animaux, mais dans tous les siècles. Jésus le croyait puisqu'il a dit, quand vous priez, terminez votre prière en disant, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. C'est une vérité indépendante de votre opinion. Satan était absolument opposé à cette vérité, mais il n'a pas changé la vérité. Et vous pouvez être contre cette vérité, vous ne changerez pas la vérité. Ça n'est pas parce que les hommes disent « moi je suis contre Dieu, moi je n'accepte pas que Dieu est Dieu tout-puissant, je n'accepte pas ». Vous pouvez ne pas accepter, mais vous ne changez pas la vérité que Dieu est tout-puissant. Car la vérité se suffit à elle-même, elle n'est pas dépendante de l'analyse ou de l'opinion des hommes. Vous pouvez contester, mais vous ne pouvez pas changer la vérité. À Dieu, tout est possible, ou rien n'est impossible à Dieu. C'est une vérité annoncée sous toutes les formes dans la Bible. J'ai pris ce verset parce que 1,37, ça m'intéressait. C'est facile, il me plaît. Et puis, il n'est pas long. Mais vous savez, des versets qui nous parlent de la toute-puissance de Dieu, si vous voulez les recenser, des versets qui nous parlent de la souveraineté de Dieu, si vous voulez les recenser, des versets qui nous parlent de la gestion de l'univers par Dieu, si vous voulez les recenser, vous allez en trouver des centaines dans la Bible. Des centaines. Celui que j'ai pris représente bien tous les autres. À Dieu, rien n'est impossible. Genèse chapitre 1, verset 1, on commence, ne cherchez pas. Et le lecteur est pris dans le Dieu qui crée, le Dieu qui écoute, le Dieu qui voit, le Dieu qui crée la terre, qui crée les hommes, le Dieu qui gouverne, qui dirige. Il ne subit pas notre Dieu. Il n'improvise pas. Il ne découvre pas sur le journal les derniers événements de la nuit. Dieu est le maître. Et si vous saviez à quel point Dieu est le maître. Il est même le maître sur ses ennemis. Même sur ses ennemis, Dieu est le maître. Mais j'ai dit que les hommes cherchent à le contrer dans tous les domaines. Et tout ce qui peut remplacer Dieu, tout ce qui peut annihiler Dieu plaît beaucoup aux hommes, parce qu'ils ont peur de cette vérité. Et quand on commence à lire les premières pages de la Bible, effectivement, on découvre des choses étonnantes sur la création des cieux et de la terre, sur la création de l'homme, et alors les railleurs, les moqueurs, ils partent de bon cœur, ils voient tout de suite que ça n'a pas pu se passer comme cela, c'est pas possible, parce que les savants ont dit ceci, ils ont... Qu'est-ce qu'ils disent les savants ? Ben oui, ils arrivent avec leur machine à calculer, ils rentrent dans une grotte, ils voient une stalagmite de 100 mètres de haut, ils disent, vous voyez, elle grandit de 1 mm par siècle. 100 mètres, 1 mm par siècle, ça ne correspond pas tout à fait à ce que vous nous prêchez dans la Bible. Mais dites-moi, mes amis, vous pensez que Dieu n'est pas capable de créer la terre avec des stalagmites de 99,99 m? Vous croyez que ça le gêne? Franchement, vous pensez que Dieu n'est pas capable de créer le monde avec des arbres qui ont déjà 80 mètres de haut et puis 4 mètres de diamètre? Il n'est pas capable? À Dieu, rien n'est impossible. Il est même écrit dans le plus ancien livre de la Bible, c'est-à-dire le livre de Job, il est même dit qu'il prend les sages dans leur propre ruse. Il les prend dans leur ruse et Dieu leur pose des pièges de ce genre-là. Vous savez, quand Jésus a été invité à une certaine noce, le premier miracle qu'il a fait, il a changé de l'eau en vin. Et puis derrière, il y a un œnologue qui est arrivé, il a goûté ce vin. Il a dit, mais 1980, ce vin-là, il est vieux, c'était du bon vin. Ben non, il venait d'être fait, là, avec de l'eau, il y a quelques secondes. À l'Éternel, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Est-ce que vous croyez ça, mes amis? Rien n'est impossible à l'Éternel. Il y a dans la Bible des généalogies. Quand on lit le Nouveau Testament et que l'on ouvre le Nouveau Testament, on voit des généalogies très précises et très bien faites qui partent soit de Joseph, soit de Marie et qui aboutissent à Adam ou au déluge. Et puis quand on additionne tout cela, on ne trouve pas le million d'années que l'on nous prétend, que les savants prétendent en disant la population sur la Terre existe depuis au moins 1 million d'années. Je n'invente pas ce que je vais vous dire parce que je n'en suis pas capable, mais je peux vous dire qu'il y a en 1850... la population de la Terre était de 1 milliard 200 millions d'habitants. Ce n'est pas vieux, il y a 150 ans. Aujourd'hui, la population est quasiment de 6 milliards. Ce ne doit pas être très compliqué pour quelqu'un qui réfléchit un petit peu et qui a son petit ordinateur de rentrer tous ces ingrédients et de dire, bon, quand est-ce que nous allons tomber au point zéro si on revient en arrière? Le point zéro, il est où? Parce que j'ai lu un homme de science chrétien qui a dit ceci, il est impossible que la population sur la Terre date depuis 1 million d'années, parce qu'il n'y aurait pas de place. Le nombre de zéros qu'il faut après le 1 pour nombrer les habitants qui sont sur la Terre, c'est impossible. De 1850 à 2000, nous sommes passés de 1 milliard 200 millions à 6 milliards d'habitants. Vous voulez rajouter 1 million d'années à ça? Impossible. Alors les railleurs, ils disent, vous voyez, ça ne correspond pas à ceci. Moi, je vous dis, je ne veux pas rentrer dans des détails scientifiques parce que j'en suis bien loin. Je vous dis qu'à Dieu, rien n'est impossible. La Bible le dit. Rien n'est impossible à l'Éternel. On peut calculer, ça je l'ai fait, c'est très facile, depuis que Noé et sa famille sont sortis de l'arche, la population a doublé 31 fois. 31 fois, ça a doublé. S'il y avait eu 1 million d'années, ça aurait doublé des dizaines de milliers de fois. Et alors, on ne serait pas comme ça. On serait les uns sur les autres. Ce serait impossible. À Dieu, rien n'est impossible. Est-ce que cela, vous le croyez avec votre cœur? À Dieu, rien n'est impossible. Après, on arrive à l'histoire du déluge. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous saouler avec des considérations techniques, mais il y en a une que je voudrais vous donner. Parce qu'un jour, un moqueur a dit, le déluge, vous me faites rire avec le déluge. Mais si l'Everest lui-même était couvert par les eaux du déluge, mais voulez-vous me dire, où est allée l'eau? L'eau, elle est où? Ah oui. Bah oui, mais moi, je pars du principe qu'à Dieu, rien n'est impossible. Et que lui, il a trouvé quoi faire avec l'eau. D'abord, vous avez vu, il y a un an, avec le tsunami qui s'est passé, lorsqu'il y a des bouleversements dans les fonds marins, que ça monte un peu ou que ça baisse un petit peu dans le fond marin, pas beaucoup, hein. Ça fait des plages qui se libèrent et des tonnes d'eau qui refluent, ou bien ça fait des vagues qui envahissent tout. Et qu'est-ce que Dieu a pu faire avec les eaux du déluge? Eh bien, la Bible le dit, justement. Et là, je vous invite à le chercher, parce que nous allons le voir dans le psaume 104, le verset 6. Le verset 6, on va lire à partir du verset 1. « Mon âme bénit l'Éternel, Écoutez bien, vous allez voir. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, il étend les cieux comme un pavillon, il forme avec les eaux le faîte de sa demeure, il prend les nuées pour son char, il s'avance sur les ailes du vent, il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement, les eaux s'arrêtaient sur les montagnes, elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Eh bien, écoutez, moi je trouve qu'il parle du déluge ici. Qu'il parle du déluge et qu'il explique ce qui s'est passé. Dieu savait quoi faire. Il a modifié les fonds marins, tout simplement, et il a trouvé de la place pour les eaux qui couvraient l'Everest. À l'Éternel, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Si vous lisez la Bible, vous en trouverez des histoires étonnantes. J'ai parlé de la création, on parle du déluge. Je pourrais vous parler de Jonas. Ça fait rire les gens, Jonas. Et pourtant, quand on lit le livre de Jonas, moi j'ai marqué dans mon livre, dans la marge, que Dieu est maître de tout. Il est maître du vent, il est maître des marins, il est maître des gens qui tirent au sort. Dieu a contrôlé le tirage au sort. Il est maître du poisson. Il est maître de la ville à laquelle Jonas s'est adressé. Il est maître d'un arbre qui en une nuit a poussé. Dieu peut faire pousser un arbre en une nuit, non? Il peut même le faire mourir en une nuit. C'est arrivé aussi. Il est maître d'un petit ver qui est venu dans la terre pour manger l'arbre et le faire mourir. Dieu est maître de tout. Oui ou non? Dieu est maître de tout. Alors les gens, ils rient, Jonas, 3 jours dans un poisson, dans le ventre d'un poisson. Laissez-moi rire. Mais je voudrais juste vous dire que d'autres Jonas, il y en a eu d'autres. Et je vais juste vous en citer un. En 1891, il y avait des gens qui pêchaient. Et ils ont attrapé un très gros poisson dont je ne connais pas le nom. Et les deux hommes se sont détachés du gros bateau, sont allés avec un petit bateau pour essayer de compléter, de le harponner. Et d'un coup de queue, le bateau a été renversé, un homme s'est noyé et le deuxième a disparu. Et puis, après des heures de travail, ils ont fini par attraper ce cétacé énorme. Et ils ont mis 2 jours pour le remonter sur leur gros bateau. Et quand ils ont remonté sur le gros bateau et qu'ils ont ouvert l'estomac, il y avait James Bartley qui était à l'intérieur, celui qui avait disparu, qui était blanc comme ma feuille de papier, mais qui, quelques jours après, travaillait avec ses collègues sur le pont. Et je peux vous dire que c'est suffisamment sérieux, puisque 2 journalistes français ont été dépêchés pour aller interroger, interviewer, savoir ce qui s'était passé. Ce que Dieu fait, il le fait. Et ce n'est pas une histoire qui doit vous faire rire en disant « légende ». Non, pas légende. À l'Éternel, tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Maintenant, je voudrais vous montrer par de nombreux versets que je vais lire, mais j'aimerais autant que vous ne les cherchiez pas, cela nous prendrait du temps, mais je vais vous dire où je les trouve. Pour vous montrer que Dieu agit sur le cœur des hommes, et quelquefois il agit là où on ne l'attend pas. Parce que Jonas, c'est bien, le déluge, c'est bien, mais Dieu agit dans tous les comportements de notre vie, dans tous les comportements. Par exemple, dans 2 Rois chapitre 5, alors vous ne cherchez pas, vous me faites plaisir. Dans 2 Rois chapitre 5 verset 1, il est écrit: Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Vous n'avez pas entendu ? C'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Si vous allez voir dans les livres d'histoire des Syriens, ce n'est pas ça qu'il y a écrit. Il y a écrit qu'ils avaient un général qui s'appelait Naaman, qui était tellement fort et tellement capable, tellement apte, qu'il avait délivré son peuple. Parce qu'il était rusé, parce qu'il connaissait toutes les règles de la guerre, mais la Bible nous dit que Dieu était intervenu pour que ça se passe comme ça. Et oui, Dieu peut intervenir dans ces domaines-là. Dans 2 Rois 24, verset 2, il est écrit « Alors l'Éternel envoya contre Jojaquin des troupes de Chaldéens, des troupes de Syriens, des troupes de Moabites et des troupes d'Ammonites. Il les envoya contre Juda pour les détruire, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par ses serviteurs les prophètes. Cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel, qui voulait ôter Juda de devant sa face à cause de tous les péchés de Manassé. » Voilà que la tribu de Juda se rend compte que des quantités de peuples viennent l'attaquer, et c'est l'Éternel qui avait décidé ça. Dans 2 Chroniques, chapitre 11, verset 4, vous savez qu'il y a eu un schisme en Israël. Après la mort de Salomon, son fils Roboam a pris la place, mais comme il était très dur, très violent, 10 tribus sont restées d'un côté, 2 sont restées de l'autre, il y a eu une division. Et Dieu intervient, il dit, « Ainsi parle l'Éternel, ne montez point, ne faites pas la guerre à vos frères, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de par moi que cette chose est arrivée. » C'est Dieu qui avait ordonné le schisme. Et vous savez, mes frères et sœurs, il y en a dans votre vie des choses que Dieu a ordonnées sans que vous le sachiez. Dans 2 Chroniques 22, verset 7, il est écrit ceci, « Par la volonté de Dieu, ce fut pour sa ruine qu'Akazia se rendit auprès de Joram. » Je ne vais pas plus loin que ça. Mais il a fait une bêtise en y allant. Ce n'était pas bien qu'il fasse cela. Et en se déplaçant et en allant voir Joram, qui était le roi adverse, il y a laissé sa vie. Mais la Bible nous dit, c'était par la volonté de Dieu que ça s'est fait. Dieu agit sur vos sentiments. Un jour, Dieu m'a fait faire une chose, il m'avait averti à l'avance, et il m'a fait faire une chose qui a été catastrophique pour ma vie, et les gens sensés me disent, mais comment tu as pu faire ça? Ben, je l'ai fait. Dieu peut vous inspirer et vous faire faire une chose qui vous punira. Dieu a agi comme cela avec Akazia. Dans 2 Chroniques 25, verset 20, ça ne va pas durer longtemps, ne vous inquiétez pas trop. Il est écrit, « Mais Amatsia ne l'écouta pas, car Dieu avait résolu de livrer entre les mains de l'ennemi parce qu'ils avaient recherché les dieux des Dômes. » Voilà encore un roi qui en donne de bons conseils. Quelqu'un lui dit, tu sais, il ne faut pas faire ça, il faut faire telle chose, prendre telle disposition. Mais il n'écoute pas, parce que comme il était en rupture avec Dieu, eh bien Dieu lui a mis une mauvaise idée dans son esprit et il a choisi la mauvaise solution. Et puis je pourrais vous parler, et je vais vous parler, de ce roi qui s'appelait Sanchérib, qui est venu attaquer Jérusalem. Il avait assiégé Jérusalem, il était goguenard, il faisait le fier. Et Dieu est obligé de le remettre un peu en place, ce roi-là. Et il lui dit, « N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin ?» Ésaïe 37, verset 26. « N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin, que je les ai résolues dès les temps anciens ?» Il y avait longtemps que Dieu avait prévu tout cela. Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent. Dieu avait permis qu'elles s'accomplissent. et Sanchérib, qui faisait le goguenard, a été tué quelques heures après par ses propres amis, par ses propres collègues. Et le plus beau des versets, c'est peut-être celui qu'il y a dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, celui-là je vous le livre pour vous tous, chapitre 3, verset 34, où il est écrit « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée ?» Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée ? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens ? Écoutez la suite. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il ? Évidemment, il se plaint quand ce n'est pas du bien qui lui arrive. Il se plaint. Et pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il ? Et la Bible dit que chacun se plaigne de ses propres péchés. Il arrive souvent que c'est à cause de nos péchés que Dieu nous envoie des tribulations ou bien prévoit certaines difficultés. Et le monde d'aujourd'hui va vers des difficultés. La Bible nous l'annonce. La Bible est formelle là-dessus. Les choses vont se dégrader. La nature se dégradera. Le climat moral se dégrade parce que les hommes ont tourné le dos à Dieu et qu'ils ont abandonné Dieu. Dans le Nouveau Testament, c'est exactement la même chose. Le Nouveau Testament, il commence par une chose étonnante. Marie était enceinte. Joseph avait accepté de l'épouser, bien qu'il ne soit pas le père. Et ils habitaient en Galilée, dans une ville qui s'appelle Nazareth. Et Marie n'était pas loin du moment où elle devait accoucher. Mais les prophètes avaient écrit, et depuis longtemps, que Jésus naîtrait à Bethléem. C'est écrit dans le livre de Michée. Près de 4-5 siècles, je ne sais plus, avant la venue de Jésus, un prophète avait dit « Jésus naîtra à Bethléem ». Or, Marie et Joseph habitaient à Nazareth, en Galilée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que César Auguste, depuis Rome, a pris un édit qui était valable pour tout l'Empire romain, un édit sur lequel il était mentionné que tout citoyen de l'Empire romain devait aller se faire inscrire à une date donnée dans la ville de ses pères. Et comme Joseph avait ses pères qui avaient habité Bethléem, il a été obligé d'aller à Bethléem. Et la Bible s'est accomplie comme Dieu l'avait dit. Dieu a agi dans le cœur, il ne le sait pas. Mais Dieu a fait prendre à César Auguste un édit et les choses se sont passées comme la Bible l'avait dit. Bon, pourquoi tout ce que je viens de vous dire, pourquoi tout ça ? Je voudrais que la vérité descende dans votre cœur. À l'Éternel, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Dans le domaine de la nature, dans le domaine des animaux, dans le domaine des hommes, dans le domaine de la santé, dans notre domaine physique, moral, spirituel. Est-ce que la phrase est dans votre cœur ? Est-ce que vous la sentez dans votre cœur ? Est-ce que vous pouvez dire, je l'ai dans mon cœur cette phrase, je la crois avec mon cœur, non pas avec mon cerveau ? Est-ce que vous pouvez dire oui ? Peut-être il y a quelqu'un ce matin qui est stressé, qui est angoissé, qui est troublé, qui est tiède. Et il a besoin, ce quelqu'un-là, de recevoir cette phrase « À l'Éternel, tout est possible ». Il peut vous guérir, il peut vous soulager, il peut vous pardonner. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il ne puisse pas faire ? Un jour, il y a des hommes qui sont arrivés et ils portaient un paralytique sur un lit. Et puis Jésus a compris ce que les gens avaient dans leur esprit, à quoi ils réfléchissaient. Et Jésus a dit, lequel est le plus aisé de dire ? Tes péchés te sont pardonnés ou de dire, lève-toi et marche ? C'est quoi le plus facile ? Ben, ça dépend qui le prononce. Pour les hommes, le plus facile, c'était de dire « tes péchés sont pardonnés ». C'était plus difficile de dire « lève-toi et marche ». Pour Jésus, c'était plus facile de dire « lève-toi et marche ». Et c'était plus difficile de dire « tes péchés te sont pardonnés ». Mais lui, il dit « afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés et le pouvoir de faire marcher les paralytiques, je te le dis, lève-toi et marche, en même temps que tes péchés soient pardonnés. » À l'Éternel, tout est possible. Il s'agit que les chrétiens soient des adorateurs. Et un adorateur, ça ne s'invente pas. Vous ne vous lèverez pas demain matin en disant « tiens, aujourd'hui je suis adorateur ». Un adorateur, c'est quelqu'un qui accepte cette vérité de la suprématie divine, cette vérité de la gloire de Dieu, cette vérité de la gestion de l'univers par Dieu, cette vérité de l'impact de Dieu dans le cœur des hommes, dans l'esprit des hommes. Il ne vous obligera jamais, jamais. Ça, c'est une chose que Dieu ne fera pas. Bien qu'il pourrait nous obliger. Il ne nous oblige pas, parce qu'il ne veut pas que nous soyons à ses pieds de force. Mais il multiplie les occasions, il multiplie les signes, il multiplie les chemins qui conduisent de nous vers lui. Dieu vous cherche. Ô chrétiens de cette ville, chrétiens qui m'écoutez, devenons des adorateurs de Dieu. Il veut des adorateurs, des gens qui admirent ce que Dieu fait, qui le reçoivent, qui lui obéissent parce qu'ils comprennent que Dieu a raison dans ce qu'il dit. Il ne se trompe pas. S'il nous donne une solution, c'est parce que c'est la meilleure. S'il nous donne un conseil, c'est parce qu'il n'y a pas un autre qui soit meilleur que ce conseil-là. Et vous savez bien, comme moi, hélas, que quelquefois, pour avoir négligé les conseils de Dieu, on a suivi de bien difficiles chemins. C'est pas vrai? On a dit « si j'avais su ». Ben oui, mais Dieu savait. Et nous, on a dit « si j'avais su ». Dieu veut que nous soyons des adorateurs, en esprit et en vérité. Est-ce que la vérité que je viens de vous énoncer a fini par descendre de votre cerveau dans votre cœur? Vous savez comment on peut le savoir? On peut le savoir. J'ai une petite machine pour vérifier si vous avez reçu la vérité dans votre cœur. Est-ce que vous avez envie de dire merci au Seigneur? Si vous n'avez pas envie de lui dire merci, c'est que vous n'avez pas compris. Est-ce que vous avez envie de commencer toutes vos prières en disant « Seigneur Jésus, je vais prier pour telle chose qui m'inquiète dans ma vie, mais avant, je m'en vais apporter de la reconnaissance. Je vais confirmer que tu es le Dieu vivant, que tu es le Dieu tout-puissant, qu'à toi rien n'est impossible. Je ne vais pas me traîner comme un miséreux en essayant de te convaincre. Je m'en vais te glorifier parce que tout est possible. » Jésus l'a fait devant le tombeau de Lazare. Les apôtres l'ont fait quand ils ont prié pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Ils rappellent ce que Dieu a dit. C'est toi qui as dit par la bouche de tes prophètes. Alors ils rappellent ce que Dieu a fait. Vous pouvez savoir si c'est descendu du cerveau dans votre cœur, si vous avez envie de remercier le Seigneur. Si vous avez envie d'être à ses pieds, si vous avez envie de lui dire, eh bien Seigneur, tu seras mon Dieu à partir d'aujourd'hui, mon Dieu. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent mon Dieu, mais le mon, il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. Mais peut-être, vous pouvez aussi dire mon Dieu, et le mon sera vrai, parce que Dieu sera votre Dieu. La vérité est-elle venu? Suis-je parvenu à vous faire comprendre que Dieu gère, que Dieu règne, qu'il a autorité, que son trône est dans le ciel, que Dieu est le maître de Toulouse, le maître des Toulousains, le maître de tout ce qui se passe, qu'il voudrait sauver, qu'il voudrait délivrer, qu'il voudrait pardonner, qu'il voudrait que les hommes viennent à lui, qu'il les appelle, qu'il ne les oblige pas, mais il est le maître. À l'Éternel, rien n'est impossible. Acceptez cette vérité. Travaillez-y dessus. Ne dites, c'est pas parce que j'ai fini de prêcher que vous devez passer à autre chose et l'oublier. Si vous l'oubliez, j'aurais prêché pour rien. Mais si demain, si dans les jours qui viennent, vous y revenez en vous disant, il faut que je sois un adorateur, il faut que je comprenne cette vérité, tout est possible à Dieu, Dieu est le maître de l'univers, ce que la Bible dit, c'est vrai, je le crois, et je veux adorer Dieu, et dorénavant, je commencerai mes prières avec de la louange, et je les terminerai avec de la louange, je les imprégnerai de reconnaissance, alors vous serez l'adorateur que Dieu cherche, et vous serez béni. Amen. Eh bien, nous allons louer le Seigneur maintenant, louer le Seigneur pendant quelques instants pour tout ce qu'il a fait pour nous. Seigneur Jésus, c'est vrai que quand on lit dans ta parole, chaque page est imprégnée de prodiges, de miracles, de choses étonnantes. Et c'est vrai que l'homme qui ne reçoit pas ces choses-là est bien loin de toi. Mais Seigneur, je veux, moi, les recevoir. Je veux qu'elles soient installées dans mon cœur. Et tous les jours, je veux me dire que Dieu peut tout faire, que rien n'est impossible à Dieu. Tu as pu me pardonner, tu as pu me sauver, tu as pu me chercher. Et ce que tu as pu faire pour moi, tu l'as fait pour d'autres. Seigneur, merci. J'ai mis, Seigneur, tout ce que j'ai pu, j'ai essayé de provoquer dans le cœur de mes frères et sœurs cette vérité pour qu'ils la sentent, pour qu'ils la vivent, pour qu'elles puissent ébranler leur cœur et qu'ils soient persuadés que tu es le Dieu extraordinaire. Alors, Seigneur, bénis mes frères et sœurs maintenant, bénis-les, que personne ne reste tiède, troublé, anxieux ou angoissé, mais que chacun s'approche de ce Dieu fidèle, ce Dieu qui est tellement capable de tout faire. Oh Seigneur, nous sommes venus pour te dire merci ce matin. Et nous voulons, dans les instants que nous avons maintenant, jusqu'au moment de prendre la Sainte Cène, nous voulons te dire merci, merci, merci de toute notre âme. Amen. Amen.